au long de ce week-end retrouver sur Grenouille la parole des habitants et acteurs locaux des conseils citoyens du centre-ville et des 15e et 16e arrondissements ouest. Tout de suite, la parole à un membre du conseil des 15e et 16e arrondissements ouest.
Sonia Abdelhedi, 37 ans, habitante de l'Estac et présidente de l'association de parents d'élèves de l'école primaire Saint-Joseph. Sonia Abdelhedi, bonjour.
Bonjour.
Alors Sonia, pour commencer, où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est au bar des pêcheurs à l'Estac aux plages, un quartier où j'ai grandi et qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai voulu faire la rencontre ici.
Le bar des pêcheurs, on voit le port de pêcheurs juste en face, on entend le bruit des mâts, du mât avec le vent. C'est cette artère qui longe le port, tu la fréquentes beaucoup ?
Oui, je l'ai fréquenté énormément en étant petite parce que je suis née justement à l'Estac, à la rue Pasteur, dans les anciens bidonvilles. J'y ai grandi, je suis partie du quartier pendant 20 ans, j'ai fait ma vie à l'extérieur de l'Estac et j'y suis revenue parce que c'est un quartier, c'est un village où tout le monde se connaît, où tout le monde est solidaire, où je sais que, bon, on est beaucoup de rues, c'est pas vraiment un quartier, nous c'est des rues, c'est un petit village et les gens ils se connaissent énormément, on a tous grandi ensemble et c'est ce qui fait la force de l'Estac aujourd'hui, de sa population qui est diverse et variée parce qu'on a toute nationalité sur le territoire et je sais que je peux laisser mes enfants en sécurité dans la rue, il n'y a pas de souci. C'est l'ancien qui va élever mon fils comme moi je vais élever un fils de l'ancien et c'est cet échange et ce partage qui me plaît sur l'Estac. Ils ont plus de développement et plus de richesse, nos enfants, parce que de la mesure où, sur Pasteur, on est vraiment le petit village de l'Estac ancré. Et dès qu'on descend sur l'Estac plage, c'est un autre univers. On se croirait sur la Côte Bleue, où là, on a des bateaux, on a énormément de bars, de bistrots, de restaurants. On a un glacier qui est énormément fréquenté. Et là, c'est toutes les populations et les générations qui se rencontrent pour échanger une glace, pour boire un café, pour avoir un partage. Sur le parc Mistral, c'est pareil. Moi, je sais qu'il y a des mamans avec les enfants qui descendent et qui veille jusqu'à pas d'heure pendant les vacances. Et là, c'est vraiment l'Estac d'avant où les gens se retrouvent, où on partage un café. Même si on ne connaît pas la personne, hein, ben t'es dans le coin, on t'offre un café à la bonne franquette. Et ça, on l'a pas en centre-ville. Et ça se perd de plus en plus dans les autres quartiers. Parce que je l'ai connu aussi sur la Savine, où j'ai habité. Et ça se perd. Ça se perd énormément. Mais sur l'Estac, c'est quand même resté villageois, où les gens, je sais que dès qu'il y a un souci, on se tient par la main. Dès que le voisin a un problème, on est là pour l'aider, le soutenir. Je sais que toutes les portes sont ouvertes dès qu'on a besoin de quoi que ce soit. On ne nous a jamais fermé les portes au nez.
Justement, les habitants de l'Estac se sentent de l'Estac ou se sentent marseillais ?
Non, complètement. On est estaquien, on n'est pas marseillais. On est d'abord estaquien et après on est marseillais de fait, parce qu'on habite Marseille. Mais quand on dit aux gens « t'es d'où ?» Ben, de l'Estac, je ne suis pas de Marseille.
Est-ce que toi, tu prends encore du plaisir aussi à aller dans le centre de Marseille ? Est-ce que tu navigues entre ces deux mondes ou non ? Du coup, tu restes dans ton village ?
Je navigue entre les deux mondes, oui, parce que je travaille dans le quatrième. Donc, je monte dans le quatrième pour travailler. Mais c'est vrai que c'est pas convivial, parce que dans la quatrième, les gens, ils sont tous pressés. J'ai l'impression d'être dans un autre monde complètement. Là, à Marseille, quand on est sur le port, on déambule, on regarde, on apprécie, on sent l'odeur de la mer. Moi, j'ai mon père qui était marin-pêcheur pendant 40 ans sur Somatie. Donc, j'ai pris cette habitude-là de divaguer, de prendre le temps de vivre. Quand je suis dans le quatrième, je suis à 300 à l'heure. Je veux dire, je me dis, c'est pas la même Sonia qui habite à l'Estac et celle qui monte dans le quatrième pour aller travailler. Je m'adapte au centre-ville, mais je préfère de loin, je me languis de rentrer sur mon Estac.
Qu'est-ce qui manque à l'Estac et que tu es obligé d'aller chercher, alors à part ton travail, dans le reste de Marseille en fait ?
Il nous manque rien à mériter à l'Estac. On a les chichis, on a tout. Il nous manque absolument rien, je veux dire. Après, le village s'est développé parce qu'il est obligé de se développer avec les banques, avec les commerces, avec tout ce qui s'ensuit. Mais il nous manque rien, on a tout. Je veux dire, on peut vivre à l'Estac coupé du monde entier. fait qu'on n'est pas dans le centre-ville, qu'on est vraiment à la limite des quartiers nord. On n'est pas loin du Rove, donc on est presque sur la côte bleue, nous, les Stacks. On est sorti de la zone ZEB justement par rapport à ça, parce que la population est plus riche qu'avant. Mais il y a toujours les smicards, il y a toujours les chômeurs, il y a toujours la population est, du haut de l'Estac est encore pauvre, pas aussi riche. Les anciens de l'Estac, ils ont toujours les mêmes revenus, le même salaire, et ils sont toujours dans la même misère qu'ils avaient avant. Mais c'est des gens qui sont francs, qui sont ouverts, qui sont conviviaux, et ce qu'ils ont, ils le partagent avec les anciens habitants. Moi, la mer, j'ai un rapport particulier parce que c'est une plage où mon père a pêché du poisson toute sa vie pour nous nourrir. Il était pêcheur. C'est une plage où j'ai appris à nager, où j'ai grandi. C'est une plage où j'ai eu tous mes amis. Je veux dire, quand on se rencontrait, hop, on va la jeter. C'était la jetée. Nous, avant, on nageait au fond du port. Mais là, c'est fermé parce qu'il y a les propriétaires des bateaux qui ont voulu fermer. C'est où on faisait nos barbecues quand on était jeunes. C'est où on faisait nos gouttettes. Bon, ça n'existe plus, mais on faisait nos gouttettes, nos dinettes avant quand on était petits. C'est une plage où j'ai connu tous mes amis, où j'ai eu mes premiers moments de joie, mes premiers moments de douleur. Et c'est la plage où j'ai appris à nager à mes enfants. Bon, elle a beaucoup évolué parce que c'est le monde qui veut. Mais moi, Corbière, nous, on appelle ça Chagnon. Chez nous, les Estaquiens, c'est Chagnon, c'est pas Corbière. Chagnon a beaucoup changé. Nous, quand on y allait, quand on était petits, c'était des bateaux rouillés, c'était des bateaux abandonnés où on nageait, où on jouait. Et là, c'est devenu une plage de plaisance.
Toi, tu vis où dans le village?
Au cœur du village. Moi, j'habite à la rue Émile Rouvière, juste vraiment au centre. Donc, je suis à moitié de la plage et à moitié de la montagne. L'idéal.
Tes enfants ont quel âge?
Alors moi j'ai 4 enfants, j'ai une grande de 15 ans qui est au collège, j'en ai une de 10 ans qui est en CM1, un petit de 6 ans qui est en CP et ma dernière qui est en petite section de maternelle qui a 3 ans.
Et toi, est-ce que t'es satisfaite de la qualité de l'école primaire dans laquelle sont donc deux de tes enfants?
Oui, parce que nous on est sortis de la zone ZEB justement, on est école pilote. Donc on n'a pas autant les aides qu'on avait avant, mais on a quand même des aides parce qu'on est école pilote. Mais je sais que le corps enseignant, c'est un corps enseignant de moyenne âge de 35 ans, où il n'y a pas de souci de communication. Bon, après, je suis l'association des parents d'élèves, donc j'ai un lien particulier avec les enseignants et le directeur. Je sais qu'on communique énormément si on ne se voit pas beaucoup, par mail, par téléphone, on a nos numéros personnels. Donc je sais que même les familles, quand elles ont un problème, quel que ce soit, même basique, mon fils il a oublié de marquer les devoirs, donc j'envoie un mail à l'enseignant, est-ce que tu peux m'envoyer devoirs parce que le gamin a envoyé, et ça se fait naturellement. Donc je peux contacter, moi je sais que je peux contacter le directeur M. Moza de l'école jusqu'à 21h le soir à son domicile, il n'y a pas de souci, il me répond tout le temps. Même l'école c'est resté villageois, même si la population se mélange, on n'est pas tous issus de l'Estac parce qu'il y en a qui sont du haut de Rio, il y en a qui sont de la Galine, ça reste quand même villageois et c'est vraiment des petites écoles qu'on a. Je sais que sur l'école Bandini on n'a que 3 classes, on a 87 gamins, sur l'école primaire on a 13 classes, on a 230 gamins, ça reste quand même des petites écoles par rapport aux autres écoles qu'on a sur Marseille.
Et alors, ça c'est une question qui peut être inhérente à l'ensemble aussi des quartiers nord de Marseille et à l'Estac aussi, c'est peut-être le manque de transport en commun, public, et peut-être le manque de liaison avec le centre de Marseille. Est-ce que toi tu sens que l'Estac est peut-être trop enclavé, qu'au niveau des transports municipaux, il n'y a pas assez d'efforts qui sont réalisés, que les bus ne circulent pas assez fréquemment?
Nous, du fait qu'on est sur la côte bleue, on a l'avantage d'avoir le 35 qui fait les Stacks jusqu'à la Joliette. Bon, c'est vrai qu'il passe toutes les 10 minutes sur les Stacks plage. Après, sur les Stacks gare, c'est vrai, on va dire que les Stacks, en fait, elle est divisée en deux mondes. Il y a les Stacks plage où c'est les bobos, les gens riches, les gens cotés, les gens qui ont de l'argent. Et les Stacks gare où c'est les gens smicards, RSA et qui ont moins de fortune. Là-haut, c'est vrai qu'on n'a qu'un 36. Et le 96, bon, lui qui va à Grand Littoral, donc il ne va pas en centre-ville. Et le 36 qui s'arrête à Bougainville. Donc pour faire le trajet jusqu'à le centre-ville, il faut soit prendre le 36 Bougainville, et Bougainville après prendre le métro, ou le tram qui n'est pas encore en circulation, qui sera qu'en 2018. On l'attend avec espérance. Mais c'est vrai que sur les Stacks gare, on est délaissé par rapport au transport. Énormément. là, je sais qu'on nous a mis une navette en place, mais pour monter sur le haut de la Galine, ça fait qu'un an, et ça fait 20 ans que les locataires le demandaient, les habitants. Ils nous ont mis une navette sur les stacks, génial, qui nous amène directement sur le port, mais à 5 euros la navette, pas beaucoup de personnes peuvent se le payer, le trajet aller, 5 euros le trajet retour, ça fait 10 euros la sortie. Ça fait énorme pour les budgets des familles, quoi. Et il y a beaucoup de populations de l'Estac qui habitent l'Estac Gare qui ne peuvent pas profiter de cette navette ou qui la voient juste sortir du parc Mistral parce que financièrement, c'est impossible.
Et donc Sonia, raconte-nous où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi ?
Alors moi je suis née dans les bidonvilles, mais vraiment les anciens bidonvilles où au début c'était des baraques en tôle. Après nos grands-parents ont construit en briques, ils étaient propriétaires des murs mais pas des sols qui appartenaient à la ville. On n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de sanitaire, mais on était heureux. Moi je me rappelle où on faisait la douche à la fontaine avec les voisins, les amis, où on se passait le shampoing, où on se lavait, où on allait chercher les seaux à la fontaine aussi pour les sanitaires, pour prendre la douche pour les plus grands, pour la nourriture. C'est ça, les stacks. Pour moi, ça sera toujours ça, les stacks. Je veux dire, il y a encore une fontaine qui est restée, toutes les autres elles ont été détruites, mais c'est notre patrimoine, c'est vraiment notre stack. Exactement comme les Roms aujourd'hui, comme ils habitent à la Sauvage, les camps des Roms, moi j'ai habité dedans. Donc quand je passe et qu'il y a des personnes qui critiquent, je leur dis, mais vous savez, il y a 40 ans, Marseille c'était ça aussi, hein. Je veux dire, c'est pas très, si vieux que ça les bidonvilles. Hein. Il y en avait à l'Estac, mais il y en avait de partout sur Marseille. Les primo-arrivants qui arrivaient, nos grands-parents, on leur donnait un bout de terrain, on lui disait, voilà, tu travailles là, ou tu le ris, ou tu travailles aux machines de ciment, et tu construis. Tu construis ce que tu veux en tôle, en dur, en carton. Voilà, le terrain t'appartient, tu en veux ce que tu veux. Jusque dans les années 92 ou 93, où ça commençait à dire que c'était sale, que c'était dégueulasse. Donc ils ont exproprié certains propriétaires qui étaient propriétaires des murs mais pas des sols. Et ils ont construit les stacks d'aujourd'hui en HLM de Marseille Habitat qui appartiennent toujours à la ville. Mais moi je sais qu'on était heureux. On était heureux et on n'avait pas de porte, on avait des rideaux. et la voisine qui cuisinait, on sentait l'odeur, on rentrait chez la voisine manger. Et 31-32, comme on dit, et on mangeait à table avec la voisine, et on rentrait à la maison. Mais c'est bon, maman, ça y est, j'ai mangé chez la voisine. Ou la voisine qui faisait un café, elle se mettait devant la porte. C'est toutes les mamans qui sortaient, et nous, les enfants qui jouaient dans la rue, c'était chez nous. Ça nous appartenait, les rues nous appartenaient, et toutes les maisons nous appartenaient. Il n'y avait pas la maison de Tartampian, ou de Pierre, ou de Paul. Non, c'était la maison à tout le monde. À l'Estac, ça a beaucoup changé du jour où les gens ont eu, comme on dit chez nous, l'eau à la maison. Les gens, c'est vrai qu'ils se sont renfermés sur eux, ils se sont sentis plus valorisés, on va dire, par le système français. Mais je sais que s'il y a le moindre souci, on est solidaire. On a gardé. Mais après, c'est comme dans tous les quartiers de Marseille. Je veux dire, moi, je fréquente beaucoup la Savine et j'ai eu à fréquenter la Castellane. Je sais que s'il y a un problème qui se passe à la Savine, tous les voisins seront solidaires. À la Castellane, c'est pareil. S'il y a le moindre souci, je sais que tous les voisins seront. Que ce soit en joie ou en mal, hein, dans les mariages, je sais que c'est tout le quartier qui se retrouve. Dans les décès, c'est tout le quartier qui se retrouve. Nous, l'année dernière, on a des gamins du quartier qui ont eu le bac. C'était la fête dans la rue. On était content, autant content du parent de son enfant que moi, que c'est ma petite voisine qui a eu son bac. Pour nous, parce qu'avant, nos parents n'allaient pas jusqu'au bac. Ils allaient jusqu'en CM2 juste pour apprendre à lire et à écrire, pour se débrouiller dans la vie. Et ils étaient obligés d'arrêter les études pour aller travailler ou pour se marier ou pour X raisons. Là, nos enfants, moi, c'est ce que je dis aux enfants des écoles que j'ai en tant qu'association. Je leur dis, vous avez la chance d'avoir des parents qui savent lire et écrire et qui vous poussent dans les études. Profitez-en. Parce que moi, je tire le chapeau à nos parents et à nos anciens qui ne savaient pas lire et qui ne maîtrisaient pas et qui, quand même, nous ont poussés à faire des études. Et ça leur a coûté énormément parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils se disaient, mon Dieu, ma fille va prendre le bus toute seule, mais qu'est-ce qui va lui arriver si elle sort de l'Estac ? Et la vie, ça s'arrêtait à l'Estac, je veux dire. On a notre collège, on a notre lycée, on a nos écoles, on a notre centre social, et pour nos parents, d'aller au lycée Nord, c'était, mon Dieu, c'était dramatique, où c'est qu'elle va, ma fille ? Ils ont eu ce courage de nous laisser partir et de nous laisser prendre notre envol. C'est pour ça que moi, je suis partie 20 ans de l'Estac, et une fois que j'ai eu mon foyer, que j'ai dit, non, mes enfants, je les élève à l'Estac comme moi, j'ai grandi à l'Estac. Ça fait 2 ans moi, que je suis dans les conseils citoyens. Je l'ai intégré d'abord en tant qu'association, puis après je suis passée en tant qu'habitante, parce que c'est vrai, on est entendu, on est écouté, mais il faut laisser du recul au conseil citoyen, que ça aboutisse. Cette année, moi, j'ai travaillé sur les fiches actions en audience avec Madame Arlette Fructus et le préfet. Ils ont entendu ce qu'on disait. Donc j'ai l'impression que ça remonte, l'information remonte. Mais le temps que ça bouge, c'est vrai qu'il y a énormément de piliers, d'étapes à passer. Donc je me dis, dans 2-3 ans, peut-être que ça aura encore de l'impact. Après, l'impact que ça a et le suivi que ça aura sur les dossiers, je ne sais pas. Je n'ai pas les tenants et aboutissants de ça.
Pour l'instant, on est surtout sur cette dimension dans les conseils citoyens, dans une dimension informative. Vous, déjà, donc, en tant que membre du conseil, vous êtes informé. Monsieur Binet est venu il n'y a pas longtemps donc, pour présenter le plan de rénovation urbaine. Donc voilà, pour l'instant, c'est avant tout de l'information, sans qu'il y ait vraiment de mise en action. Est-ce que c'est ça que tu attends maintenant de la part du conseil citoyen dans les mois à venir, de passer dans une autre phase ?
Ouais, c'est ça, il faudrait que maintenant, bon, on a eu toutes les informations nécessaires et après on peut les retrouver facilement sur internet, parce que c'est vrai que le site qui a été créé il est très explicite et très facile pour les personnes qui savent un peu manipuler l'informatique. Mais là c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait de l'action. Moi j'ai eu un souci de la solidarité par exemple, où on a discuté en conseil citoyen du fameux rond-point de la solidarité. J'ai des personnes âgées, moi, qui sont venues me voir sur le renouvellement du plan urbain en me disant, Sonia, on a reconstruit des bâtiments de 3-4 étages, on nous a mis tout en haut d'une colline, le bus n'y accède pas. Alors, quelle est la priorité aujourd'hui ? De modifier ce fameux rond-point ou de voir avec la RTM un arrangement pour que le bus puisse monter, il y a 2 km quand même de marche pour les personnes handicapées, personnes âgées, voilà. Même pour les jeunes, quoi. Je veux dire, 2 km, les gamins qui rentrent de l'école, à 4h30, ils ne se sentent pas de les taper 4 fois par jour. Pour le midi, pour le matin et le soir, ça fait énorme. La priorité, c'est quoi ? De modifier ce rond-point, de le faire rond, carré ou ovale, je sais quoi d'autre, ou de faire monter le bus, trouver un arrangement avec la RTM pour qu'ils puissent desservir ces personnes-là qu'ils ont délogées et relogées, je veux dire, en plus, sans leur avis, quoi.
Comment donc concrètement toi tu pourrais peser en tant que membre du conseil citoyen, ou comment le conseil citoyen pourrait peser là ?
Mais nous on pourra peser parce qu'après c'est vrai qu'on est moitié association, moitié habitant. Donc je pense que la voix des habitants posera plus parce qu'ils habitent le secteur, ils habitent le quartier. Et si nous en tant que conseil citoyen on peut parler d'une seule voix et faire remonter l'information, je pense que ça bougera. Parce qu'on est quand même assez nombreux sur le conseil et je pense qu'on a tous le même point de vue. Hein. Un locataire qui habite je ne sais où, à mobilité réduite et qui n'a pas accès à la RTM, on va tous œuvrer pour que cette personne-là ou ces habitants-là puissent avoir accès au transport en commun. Ça ne se fera pas aujourd'hui, c'est sûr, hein, mais ça se fera. Avec la force des conseils citoyens, je pense que ça se mettra en place.
Toi, t'es satisfaite de l'énergie de ce conseil, de la dynamique, en tout cas de la synergie entre chacun, ouais.
De notre conseil, oui, parce que moi, j'ai eu de retour d'autres conseils où c'est un peu compliqué. Moi, je trouve qu'on avance et qu'on travaille assez bien ensemble. Et même en dehors des conseils citoyens, quand il y a des groupes de travail qui se font, on arrive à se rencontrer à l'extérieur, de se trouver un emploi du temps où on se rencontre, où on se trouve des rendez-vous et on se cale à 3-4 et on travaille sur des projets. On n'est pas forcément tous obligés de travailler sur le même projet. C'est-à-dire, la personne qui habite à la solidarité, ça l'intéresse, elle va travailler dessus. Et s'il y a un autre projet qui m'intéresse, je travaillerai sur l'autre projet. On n'est pas obligé de tous travailler sur la même chose.
Toi Sonia, est-ce qu'il y a des thématiques majeures qui pour toi doivent être développées là par ton conseil dans les mois à venir ?
Moi c'est le droit à accès à la personne au dossier administratif, parce que c'est vrai qu'on a de moins en moins de points d'accueil comme la CAF, la Sécu, tout devient informatique maintenant et les gens quand ils s'y rendent, c'est vrai qu'ils s'y plaignent énormément parce que... Après je lance pas la pierre aux personnes qui travaillent à la CAF hein, parce que c'est des gens qui sont parachutés aussi, qui comprennent rien à rien, donc mais c'est la vérité. Et en général ils donnent l'information qu'ils ont eu et qu'ils pensent être bonne, mais il y a beaucoup de gens qui sont induits en erreur, ou quand on va à la CAF on attend des 3h, 3h30 de queue pour avoir une information en disant téléphone à ce numéro-là. Je pense qu'il faudrait qu'on œuvre dans ce sens-là et de voir avec les associations pour voir comment développer ce truc et le conseil citoyen pour mettre ça en place.
Et tu sens donc dans cet accès aussi au droit administratif une fracture technologique là dans ton quartier, dans en tout cas les quartiers concernés par ton conseil citoyen ?
Énormément, parce que nous on a une population vieillissante sur les stacks. Ce qui veut dire que les enfants ont pris leur envol, sont partis, soit mariés, soit travaillent, soit ont quitté le foyer conjugal. Et il reste que les papis-mamies, en fait. Et ces papis-mamies-là, Internet, ils ne connaissent pas. L'ordinateur encore moins, recevoir des mails ou créer un groupe espace Amélie ou CAF, ils sont complètement paumés. Moi j'ai reçu une dame récemment qui s'est trompée d'une virgule sur sa déclaration trimestrielle, on lui a coupé ses droits pendant 6 mois. Et pourtant elle a eu à faire des courriers et des mails, mais elle connaît pas, donc on lui a dit tu vas sur internet, bête et discipline, elle a été, et elle s'est trompée d'une virgule, elle a mis un 0 en plus. Voilà. Et elle s'est retrouvée dans une procédure administrative impossible et incompréhensible pour elle, pêcheur. Elle a tapé à toutes les portes jusqu'à ce qu'une association a pu l'aider pour pouvoir retrouver ses droits. Mais voilà ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. On donne aux gens un site internet avec un lien, on lui dit « va voir dessus ». Moi, grâce au Conseil citoyen, quand j'ai travaillé sur les fiches actions, j'ai rencontré l'association L'Ancrage, qui est sur le Saint-Henri, et qui, eux, mettent à disposition des ordinateurs le mardi après-midi et le jeudi matin, avec un informaticien qui se nomme Toufik. J'ai fait la rencontre du monsieur, j'ai emmené un groupe de femmes qui, grâce à lui, ont pu créer leur boîte mail, ont pu faire leur CV. Il leur a expliqué, il a pris le temps de créer avec elles des comptes Amélie, de créer avec elles des comptes CAF. Et il les a rassurés énormément. Il leur a dit, si vous avez le moindre souci, vous revenez vers nous et il n'y a pas de problème. Voilà. Cette association L'Ancrage, qui travaille depuis des années sur les stacks, que je ne connaissais pas plus que ça, m'a permis à moi d'orienter des familles pour avoir l'accès à Internet et avoir l'accès à des ordinateurs et surtout d'être accompagnée. Parce que je veux dire, avoir accès à Internet et un ordinateur, on va à un cybercafé et c'est bon. Mais là, ils ont l'accompagnement de la personne bénévole qui les aide dans leur démarche administrative. Et ça, ça se perd de plus en plus. On a du mal à le trouver sur les quartiers, sur les sites.
Merci beaucoup Sonia.
Merci à vous.